Quotidien 5e édition avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Mais c'est pas Yvan, c'est pas Francine, c'est Denis Martel Chabot. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Au Quotidien 5e édition. Et un lendemain de tempête, Nicolas, est-ce que ça a tonné chez vous?
Ça l'a tonné pas à peu près.
À peu près. En tout cas, on a fait un saut. C'est venu tout noir ici à Montréal. Alors, oui, je vous présente donc Nicolas Vassman, qui est notre metteur en ondes, technicien aujourd'hui. L'émission, donc, c'est le vendredi, puis c'est l'été. Fait qu'on va essayer de faire ça un peu plus cool, comme on fait d'habitude. De toute façon, c'est un peu la thématique de cette émission. Nous aurons avec nous donc Monique Kirouac un petit peu plus tard pour parler des grands titres en Estrie. Et puis à la chronique Se promener au Québec cet été avec Isabelle Ducharme de Kéroul, elle va nous amener dans des lieux accessibles pour tous, y compris ceux qui vivent avec des difficultés de mobilité. Et puis on reçoit en studio Juste Massicotte pour parler du balado ou de la balado Semer le doute, c'est sur les théories du complot concernant le VIH. Et puis on va parler d'une agence, l'agence Sur moi et compagnie avec Crystal Stars. Oui, une agence de drag queen. Ben oui, c'est à la mode, puis c'est le temps d'en parler. Et on va aussi surveiller ce qui se passe en fin de semaine. On va recevoir donc Vanessa Anne Paré, qui est organisatrice communautaire, chef d'intégration d'équipe sociale. Donc, on va parler avec elle de cinéma adapté à Montréal. Et puis, juste un petit coup d'œil météo, ben c'est la pluie, non, c'est le beau temps après les intempéries d'hier. Il y a toujours quand même plus de 200 000 Québécois, foyers Québécois qui n'ont pas d'électricité ce matin là, à la suite de ces orages. Les deux tornades là, qui ont été rapportées à Ottawa et à Mirabel. Et puis les vents et tout ça, et puis la foudre qui est tombée. Donc, ça va être un peu plus calme aujourd'hui. Ça va rester beau et frais pour le Québec. Dans l'ouest du pays, c'est de l'orage. C'est plus clément sur la côte ouest. Et c'est aussi un peu so-so, hein, un peu n'importe quoi dans les provinces atlantiques. Mais bon, c'est l'été, c'est comme ça. Puis nous, on va en musique. C'est la fête des nationales des Français aujourd'hui. Fait qu'on en profite pour vous faire entendre la chanson qui a représenté la France avec une artiste québécoise qui l'a chantée, Lazara, évidemment.
Mon cœur, mes mains, mes yeux, mes reins, plus rien ne m'appartient. Je me fais du mal pour faire du bien. J'oublie comme si ce n'était rien. Dans mon jardin d'enfer poussent des fleurs que j'arrose de mes rêves, de mes pleurs. On a beau être sur le toit du monde, on ne peut toucher le ciel de doigts. Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent. Évidemment, car après le beau temps vient la pluie, c'est ce qu'on oublie. C'est toujours trop beau pour être vrai, mais ce n'est jamais trop. Demain, je rachète hier, le temps est assassin. Je cherche l'amour, je ne trouve rien, comme dans mon sac à main. Dans ma tête, ce n'est pas tant évident. Je cherche la vérité tout en l'évitant. On a beau être sur le toit du monde, on ne peut toucher le ciel du doigt. Est-ce que j'entends? Ce n'est que du vent. Évidemment, elle ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant.
chanter la grande France.
C'est toujours faux, pour être vrai, mais c'est jamais trop laid. Plus jamais la même, cette fille d'avant, évidemment.
Waouh, évidemment, t'aimais ça, Nicolas?
Ouais,
ouais, c'est ouais. La chanson qui a représenté la France lors de l'Eurovision. J'avoue que je suis un petit... Bon, ça, c'est mon plaisir coupable. J'aime beaucoup l'Eurovision. Mais cette année, j'étais très déçu parce que c'était une artiste québécoise, de Longueuil, Lazara, qui représentait la France. Et elle, je pense qu'elle a terminé comme sixième. Là. Ça n'avait pas de bon sens.
Mais les résultats étaient très... me semble que c'est un pays vraiment qui a gagné la plupart des résultats.
C'était très politique. On voulait retourner donc pour célébrer Abba, etc., qui avait gagné il y a... Je pense que c'est quoi, 40 ans? Bon, mais puis il y a eu toute la controverse sur le Toz, tu sais.
Ah!
Oui, parce que Lazara a fait un geste de la main qui a été très mal vu par plusieurs personnes. Cela dit, on l'aime, Lazara, c'est une diva, elle est de chez nous. Puis la chanson est très belle. Et puis, ben, bonne fête nationale à tous mes amis, tous nos amis français. Pour ceux, ben, je ne vais pas vous raconter ma vie. Moi, j'arrive, je suis allé passer 3 semaines à Paris, puis j'ai vécu la semaine, en fait, les 10 jours d'émeute. Nicolas, c'était vraiment pas agréable.
J'ai vu des vidéos, là.
Ouais, et puis moi, j'étais dans Bobigny, puis pas loin de chez d'où j'habitais, là, il y avait le feu dans les autobus et tout, là. Ça fait que, ouais, c'était des vacances assez mouvementées. Alors, il semble-t-il là, que jusqu'à maintenant, il y a eu le défilé ce matin de la Bastille, là, sur les Champs-Élysées, et tout s'est bien passé. Alors, on garde les doigts croisés pour nos amis français, pour qu'ils puissent et qu'elles puissent célébrer cette fête-là. Ben, je retourne dans l'actualité. On en a parlé un peu en ouverture d'émission. Ben, l'alerte à la tornade à peine levée. La météo s'est déchaînée. Donc, je vous cite la presse ce matin. La météo s'est déchaînée dans le Grand Montréal en début de soirée hier, avec de nombreux éclairs, des vents violents, des pluies torrentielles qui ont provoqué de grandes accumulations d'eau, surtout là sous des ponts d'étagement. Et puis, bien, la succession d'événements météorologiques intenses des derniers jours est en quelque sorte appelée à devenir la nouvelle normalité et que 2023 pourrait marquer un point de rupture. Alors, ouais, c'est pas très... ça augure pas bien tout ça. Et puis, donc, je l'ai dit tout à l'heure, au moins 2 tornades ont été confirmées par Environnement Canada, l'une à Ottawa et l'autre à Mirabel, tandis qu'on rapportait des vents violents de 90 km/h à l'aéroport Montréal-Trudeau. D'ailleurs, il y a des vols qui ont été retardés toute la soirée hier. Environnement Canada ne pouvait toujours pas, donc, en fin de soirée, confirmer s'il y a eu le passage d'une 3e tornade ou non à Salaberry de Valleyfield. La puissance du front orageux qui a balayé le sud-ouest du Québec avant de frapper Montréal en fin de journée a surpris plusieurs. Et donc, en fait, on peut même parler d'un expert, un professeur d'hydroclimatologie, Philippe Gachon de l'UQAM. Alors, de tels épisodes de pluie intense seront-ils la nouvelle norme climatique? Alors, ce qu'il dit, c'est qu'il n'espère pas, mais la réponse, c'est oui. Après les incendies de forêt historiques, les températures très chaudes des dernières semaines et maintenant les plus intenses au Québec et au Vermont, l'année 2023 vient de marquer un point de rupture selon lui. En fin de soirée, Environnement Canada a confirmé à la presse que 82 mm de pluie étaient tombés à Montréal durant la journée, incluant 75 mm en 2 heures seulement. Et c'est plus que 2 fois l'ancien record pour un 13 juillet qui datait de 1977. La ville de Québec aussi a été touchée avec une 50aine de millimètres de pluie et ça a forcé l'annulation des spectacles du Festival d'été de Québec pour une autre soirée. Décidément, ça va pas bien pour eux autres cette année. Et puis à Mirabel, bien, il y a une tornade qui a touché terre et on parle de 35 à 50 millimètres de pluie. L'intensité des épisodes de pluie est appelée à augmenter davantage que la quantité de pluie totale plus longues périodes, explique M. Gachon. C'est extrêmement inquiétant pour nos infrastructures puisqu'elles ne sont pas adaptées. On l'a vu, il y a plusieurs viaducs ou de ponts d'étalement ou d'étagement qui ont été grandement malmenés. Même une station de métro à Montréal, Square Victoria OSI, qui a été fermée hier. Et c'est un avis qui est partagé par un météorologue qu'on aime beaucoup. Il est à la retraite, mais c'est Gilles Brien. Et il dit que l'orage est passé à la vitesse d'un train hier. Mais s'il était resté sur place, on aurait pu avoir autant de pluie qu'à Rivière-Éternité. Il fait référence évidemment aux averses survenues plus tôt ce mois-ci au Saguenay qui ont emporté des tronçons de route. On se rappelle, hein, ça a été quand même assez spectaculaire. Les trombes d'eau ont d'ailleurs donné bien des maux de tête aux automobilistes. Certains sont restés coincés sous les viaducs en raison d'accumulation d'eau. Alors, je le répète, donc la station de métro Square Victoria OACI qui a été fermée hier momentanément. Et il y a eu aussi, dans la région d'Ottawa, il y a eu quand même 125 bâtiments qui ont été endommagés, selon la police. Une personne a été blessée, peut-être pas grièvement, sans gravité, justement, dans le passage de la tornade là-bas. Décidément, les éléments se sont déchaînés. D'ailleurs, tous les journaux en font la une. Vous devriez voir le Journal de Montréal. Il y a trois pages là-dessus avec des titres absolument incroyables, comme seul le Journal de Montréal peut le faire, évidemment. Tiens, évidemment, ça revient toujours, ça, évidemment, évidemment, évidemment. J'aimerais quand même qu'on parle de logements sociaux parce que Le Devoir ce matin nous propose un article quand même assez déroutant. Le marché locatif est en crise au Québec et pourtant plus de 3200 logements sociaux sont vacants dans les 10 plus grandes villes de la province, notamment parce qu'ils ont besoin d'être rénovés. C'est ce qu'a appris Le Devoir. Une situation inadmissible pour la ministre responsable de l'habitation, France-Hélène Duranceau. Les données fournies au Devoir par les offices municipaux d'habitation qui gèrent les parcs de logements sociaux de ces grandes villes québécoises rapportent au total un total de 3231 appartements vacants. Cela représente 4,71% des logements sociaux gérés par ces organismes dans des villes où les besoins en matière d'habitation sont criants. On l'a vu là avec la journée de la fête nationale du déménagement du 1er juillet. Alors, pour plusieurs de ces logements sont vacants de façon temporaire à la suite du déménagement de leur ancien occupant, notamment en marge du 1er juillet. Ils se retrouvent alors vides, le temps d'être remis en état pour être reloués par la suite à des ménages à faible revenu. Mais ces données font toutefois état en parallèle d'un problème chronique, celui du piètre état des logements sociaux au Québec. Près de 1400 appartements actuellement vacants situés dans les 10 plus grandes villes du Québec à raison de rénovations ou de travaux majeurs qui s'étirent et dans certains cas depuis des années, selon les données obtenues par Le Devoir. Le tout au moment où la Société d'habitation du Québec rapporte qu'au 31 décembre 2021, plus de 37 500 ménages locataires au Québec s'étaient inscrits sur les listes d'attente. Dans le contexte actuel où les ménages peinent à trouver des logements abordables et que les listes de gens en attente pour un logement en HLM sont très importantes, il est fâchant et inadmissible de constater que des milliers d'unités HLM sont vacantes. Pour moi, ça ne passe tout simplement pas, a indiqué jeudi donc la ministre responsable de l'habitation, France-Hélène Duranceau. Dans la métropole, donc, c'est 2308 logements sociaux actuellement vacants. 821 sont restreints à plus long terme en raison de travaux majeurs en cours ou actuellement ou prochainement, ou parce qu'ils se trouvent dans des immeubles ayant besoin d'entretien, mais pour lesquels nous sommes en attente de financement, a indiqué au Devoir l'Office municipal d'habitation de Montréal. Là, il faut dire quand même que l'Office a reçu une somme de 94 millions de dollars dans le cadre de l'entente Canada-Québec sur le logement. Donc, ces logements devraient être remis en état, mais on en a pour plusieurs années avec ça. C'est vraiment déplorable tout ça, alors que les gens ont besoin de logements, c'est criant, de logements abordables surtout. Et toujours, on retourne dans la presse, le logement vidé pendant qu'ils sont en voyage. C'est une anecdote, mais c'est quand même intéressant et important ce qui se passe là. Imaginez-vous que Justin Roy-Brousseau a eu le choc de sa vie en revenant de voyage le 7 juillet dernier. Son appartement avait été vidé pendant son absence et les serrures changées. C'est parce que les propriétaires croyaient à tort que sa conjointe et lui rompaient leur bail. Wow! L'homme de 30 ans a d'abord été surpris de constater que la clé de son logement ne fonctionnait plus lorsqu'il est rentré d'un séjour de 3 mois en Colombie-Britannique où il plantait des arbres. Alors il dit « J'ai fait le tour de l'immeuble pour regarder par la porte coulissante qui donne sur la cuisine arrière et c'est là que j'ai eu le choc. Il n'y avait plus rien dans la cuisine. Il n'y avait plus de cuisinière, pas de table, il n'y avait absolument rien. » Il s'est aussitôt précipité chez les propriétaires qui habitent le logement voisin. Les locataires qui ont refusé de donner une entrevue à la presse, je pense que je comprends pourquoi, ont expliqué à Justin qu'ils étaient convaincus qu'il s'était séparé de sa conjointe et qu'il assurait financièrement le paiement de logement depuis 3 mois. Alors, en voyant sa conjointe partir le 24 juin, ils ont cru à tort qu'elle abandonnait l'appartement situé dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Elle avait laissé une lettre, imaginez-vous, que les propriétaires qui sont chinois et qui n'ont peut-être pas tout à fait compris ce qui était dessus, ont vu ça comme une lettre d'adieu. Alors, ils ont toujours payé leur loyer. Il y a juste eu un petit retard pour le loyer du 6 juillet, qui ont quand même payé le 6 juillet. Mais c'était trop peu, trop tard. Les serrures avaient déjà été changées, le logement vidé et les murs repeints en blanc en partie. On ne sait pas pourquoi, mais ils ont jeté certaines choses. Ils en ont stocké une partie dans le garage, raconte Louise Filipovitch, ça c'est la petite amie. Le tri a été fait de façon très arbitraire. Alors, je peux vous dire que tous les effets qui se trouvaient dans la salle de bain, par exemple, ont été placés dans un sac à poubelle, puis ils ont mélangé l'éponge qu'on sert pour la toilette avec les brosses à dents. Bref, les locataires ont retrouvé leur appartement. Il y aura certainement une poursuite là, pour dommages sur ce qui se passe là. Je vais terminer rapidement. Vous savez que le syndicat des acteurs américains entre officiellement en grève aujourd'hui. Ils rejoignent donc les scénaristes pour un double mouvement jamais vu depuis 1960 à Hollywood et ce qui va paralyser la production cinématographique et télévisuelle américaine. Alors, cette grève qui a été décrétée par la SAG-AFTRA, le syndicat unique des acteurs qui engage donc ses 160 000 membres, qu'ils soient de simples figurants, des cascadeurs, des seconds rôles occasionnels ou des vedettes. Parce que oui, les grandes vedettes ont des contrats individuels en plus du contrat syndical, mais restent néanmoins membres du syndicat. Rappel à l'AFP, Jonathan Handel, qui est avocat spécialisé dans l'industrie du divertissement et qui dit même contrat, mêmes obligations. D'ailleurs, plusieurs célébrités, parmi lesquelles Meryl Streep, Ben Stiller et Colin Farrell, se sont déjà publiquement prononcés en faveur de la grève. Ils vont devenir d'ailleurs les porte-parole essentiels parce que cette grève n'a pas pour but d'apporter plus d'argent à des gens qui font des millions, explique M. Handel. Le mouvement social est crucial pour la multitude d'acteurs et d'actrices moins bien payés qui doivent continuer à mettre de la nourriture sur la table et garder un toit par-dessus leur tête. Puis on sait que, comme dans toute l'industrie cinématographique, télévisuelle, des communications, l'arrivée des réseaux sociaux, l'arrivée des ce qu'on appelle des sites de diffusion continue, les streamers comme Netflix, ça a beaucoup changé la donne et on se retrouve donc avec des problèmes financiers et c'est ce qui se passe. Alors, c'était mes premières petites unes. Bonjour, bonjour, Monique Kirouac, comment ça va?
Ben ça va bien, Denis, vous-même?
Ça va très bien, ça va très bien. C'est la première fois que j'anime cette émission-là, parce que j'ai déjà fait l'émission au quotidien du lundi au jeudi, mais la cinquième édition...
Oui, c'est là que nous avons fait connaissance.
Tout à fait. Alors moi, je fais toujours connaissance de gens super sympathiques, alors c'est le compliment que je t'envoie aujourd'hui, en cette journée de la fête des nationales des Français, qu'on salue toujours au passage. Alors Monique, il se passe beaucoup de choses dans votre coin.
Oui, il se passe des choses, mais Denis, j'ai l'habitude d'éviter de faire des redondances avec des nouvelles dont on parle largement aussi sur Montréal. Alors, je ne vous parlerai pas de lac Mégantic, je ne vous parlerai pas des pluies torrentielles qui s'abattent sur nous comme sur toutes les régions du Québec.
C'est déjà fait.
C'est déjà fait, exactement. Ouais. Alors, je vous parle d'abord d'une histoire d'engagement. Alors, Francine Talbot a la sécurité de sa communauté tatouée sur le cœur et réalise un rêve d'enfance en se portant à son secours dans des situations d'urgence. Alors, Denis, elle vient de prendre la tête du service des incendies de la municipalité de La Patrie, ce qui fait d'elle une pionnière en tant que femme occupant cette fonction dans sa municipalité. Alors, je vous raconte un petit peu son histoire. En 1991, Francine Talbot devenait la première femme à occuper le poste de pompier volontaire dans la municipalité de Scotstown. Après quelques années d'arrêt, elle a repris le métier il y a une douzaine d'années avant de devenir donc directrice du service à La Patrie, son lieu de résidence. Aujourd'hui, en incluant Mme Talbot, la troupe compte 19 pompiers et le recrutement se poursuit. Alors, on lui souhaite bonne chance. Je vous parle maintenant de vigilance citoyenne. Alors, imaginez que d'ici l'automne, la limite de vitesse sera abaissée à 30 km/h aux abords des 14 parcs de quartier de la ville de Magog. Alors, le stationnement sur rue y sera également interdit sur une distance de 30 mètres entre le 1er mai et le 1er novembre. Alors, pourquoi ce changement? En adoptant cette nouvelle réglementation à sa séance de juillet, le conseil municipal a dit vouloir assurer une plus grande sécurité pour les jeunes utilisateurs de ces parcs, mais aussi, je pense, toutes les autres personnes qui les fréquentent, et les week-ends, c'est largement fréquenté. Alors, un petit clin d'œil à Yvan, je vous parle sport, parce que c'est sa passion, vous le savez.
Oui, oui, je sais.
Alors, Arthur Brault fait partie d'une délégation québécoise d'une quinzaine de jeunes golfeurs et golfeuses qui participera cette fin de semaine, ça commence aujourd'hui, en Floride, au championnat golf junior d'optimisme international. Alors oui, la compétition a lieu à partir d'aujourd'hui jusqu'au 19 juillet. Alors, un exploit en soi pour ce jeune homme qui a été victime d'un bête accident qui a failli lui coûter un œil il y a près de 3 ans. Mmh. Alors, pour revenir à cette compétition internationale, il y a 30 pays qui sont représentés par 625 joueurs qui vont évoluer dans 7 catégories d'âge. Alors, notre jeune Arthur, qui est membre du club de golf AOZ, participera à la compétition dans la catégorie garçon 10-11 ans. Alors, je reviens donc sur cet accident qu'il a eu. Pendant presque un an, il voyait double. Alors, et entre autres, il est plusieurs fois rentré de l'école ensanglanté parce qu'il ne pouvait pas voir la poutre lorsqu'il jouait dans la salle de jeu. Alors, il a plusieurs fois eu des interventions chirurgicales. Parce qu'il tombait fréquemment en allant et en venant de l'école, justement. Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'à la suite de la dernière intervention, les jours suivants, il allait à l'école en portant ses souliers de golf. Pourquoi? Il trouvait qu'il avait une meilleure adhérence, il sentait mieux le plancher. Alors, les docteurs ont fini par corriger, pas à 100%, mais ça, relativement bien sa vision. Et la preuve, c'est qu'il se débrouille, on peut le constater, assez bien au golf. Alors, on lui souhaite bonne chance à ce jeune Arthur. Et je terminerai en vous parlant de Orphan Music, Denis.
Ah, je ne connais pas.
Vous ne connaissez pas? Ah bien, écoutez. Orford Music est situé dans le parc national du Mont Orford. Mm-hmm. Et à chaque été, de nombreux jeunes viennent y étudier la musique avec de grands professeurs qui viennent de partout à travers le monde. Et si vous avez le temps de vous déplacer ce soir, il y a Godet, l'essence de Schubert. Il y a aussi le studio de musique ancienne de Montréal, le 15 juin, qui va aussi interpréter des différentes pièces de musique, mais cette fois à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. On revient au site d'Orford avec la nef, rituel pour 4 pianos, et là, on concilie opéra et danse. Alors, j'espère que ça vous donnera le goût de venir en Estrie.
On va essayer en tout cas. Monique, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi.
Alors, au plaisir de se reparler bientôt, Denis.
Tout à fait. Merci beaucoup. Et puis moi, de mon côté, je voulais vous dire que dans la région de Québec, l'orage de jeudi a quand même provoqué des incendies. Il semblerait que la foudre soit tombée sur 3 résidences. C'est sous enquête. Alors, on voit que ça commence à être compliqué, là, hein, les changements climatiques, que certains nient, mais bon, nous, on n'est pas là-dedans, on y croit. J'aimerais aussi vous parler de l'éditorial du Devoir aujourd'hui. C'est, en fait, le seul éditorial que je trouvais digne de mention aujourd'hui. Donc, on parle de quand compromis rime avec épicerie. Alors, malgré un salutaire essoufflement de l'inflation, là, le mois dernier, Après des mois d'emballement, trop de facteurs continuent de peser sur le panier d'épicerie des Québécois. Puis c'est quand même problématique. Alors, ce serait sans doute bien passé du nouveau tour de vis mercredi donné au taux directeur de la Banque du Canada. Alors, c'est le 10e depuis mars 2022, puis vous savez que c'est le taux le plus élevé depuis, si je ne me trompe pas, depuis 2001. Et donc, c'est pas là le remboursement là, qu'on a reçu de Justin Trudeau, qui a été probablement très bien accueilli pour beaucoup de personnes, qui a été distribué, mais qui va suffire à renverser la vapeur. Plus de la moitié des Canadiens affirment qu'ils sont à 200 $ ou moins de ne pas pouvoir payer toutes leurs factures à la fin du mois. Alors, dans l'éditorial de Louise Maude Rioux-Soucy, elle dit que avec près d'un Québécois sur quatre qui déclarait une insécurité alimentaire, 24%, donc c'est quand même beaucoup, là, donc 14% qui disent modéré ou grave en mars dernier, il a fort à parier que c'est déjà fragilisé, ces grands écarts économiques, se traduiront encore, par encore plus de compromis nutritionnels dans les paniers, spécialement pour les ménages déjà fragilisés par la crise du logement. Et puis oui, on peut pointer du doigt les grandes compagnies d'épicerie, mais les écarts, les marges de profit n'ont pas tant augmenté que ça. C'est vraiment un concours de circonstances qui a été exacerbé par la guerre en Ukraine et par toutes les effets de la pandémie qu'on a vécu et les changements climatiques dans lesquels nous vivons présentement. Et qu'il faudrait avoir une politique alimentaire qui vise à combattre le gaspillage, parce qu'il y a un grand gaspillage alimentaire qui existe encore de nos jours au Québec. Donc, un appel à ce que tout le monde mette la main dans le panier d'épicerie, justement, pour aider les gens à pouvoir subvenir à leurs besoins alimentaires. Sinon, ça va aller de mal en pis dans les prochains mois, les prochaines semaines, parce qu'on est loin d'avoir vaincu cette crise inflationniste qui nous affecte. Dans la prochaine partie de l'émission, nous allons donc, après la petite pause de 2 minutes, on va parler de se promener au Québec cet été avec Isabelle Ducharme. Je reçois aussi Juste Massicotte, qui est le gestionnaire de contenu au portail VIH-SIDA du Québec, avec qui nous allons parler de la balado « Semer le doute ». Et puis plus tard, on va recevoir aussi Crystal Stars, Drag Queen, qui va nous parler de l'émission « L'Agence » sur la chaîne « Moi et compagnie ». Et on va aussi parler donc de ce qu'on a surveillé ce week-end pour les personnes qui veulent s'amuser en toute sécurité. Donc, on va recevoir Vanessa Anne Paré. Et sur ce, on fait une petite pause et on vous revient dans 2 petites minutes.
Quotidien, 5e édition.
Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi, parlez de moi à vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu, j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi. Ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nu c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Voilà, 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 voilà juste ici. Moi, mon rêve, mon envie. Comme j'en crève, comme j'en ris. Me voilà dans le bruit. Et partez pas. Je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non. Mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime, parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nu c'est fini. Me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi. Regardez-moi enfin, et mes yeux et mes mains, tout ce que j'ai est ici. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, me voilà, me voilà.
C'est Barbara Pravi, voilà.
Oui, Barbara Pravi qu'on a pu aussi. Elle a représenté la France. J'essaie de me rappeler quelle année, mais je pense que c'était il y a 2 ans ou il y a 3 ans, toujours dans l'Eurovision. C'est comme ça que je connais les artistes français. Nicolas, c'est mon plaisir coupable.
Mais j'ai adoré le violon dans cette chanson.
Ah oui, c'est très français comme chanson. Puis je trouvais que son style ressemblait beaucoup à celui d'Edith Piaf. Barbara Pravi, je vais probablement faire écouter lorsque je reprendrai l'antenne dans 2 semaines pour Le Quotidien. Elle a fait une version de Kid de Pravdi. Excuse-moi, je me trompe de nom. Mais cette chanson, donc, qui souligne la masculinité toxique. Et elle en a fait une adaptation, Tu seras une femme. Et oh boy, ça nous ramène à des choses assez sur le sexisme qui existe encore. Alors sur ça, ben écoute Nicolas, merci pour cette belle chanson qu'on a entendue. Nous, on va aller du côté de... on va aller rejoindre Yvan, qui peut-être est en congé aujourd'hui, mais il nous a préparé une chronique. Alors on va l'écouter se promener cet été au Québec.
À la chronique, on visite le Québec avec Kéroul et Isabelle Ducharme, qui est la présidente du conseil d'administration. C'est très sérieux, votre affaire.
Faut pas prendre ça trop au sérieux. L'important, c'est de dire que c'est de Kéroul.
D'accord. Alors, cette semaine, on s'en va en Chaudière-Appalaches. Et comme je commence à avoir le plaisir de résumer vos chroniques, donc on s'en va dans un musée, on s'en va boire et on s'en retourne dans un musée.
C'est drôle, j'allais dire, on s'en va picoler.
Oui, c'est une bonne façon de faire. Surtout un 14 juillet, Journée des Français.
Ben voilà, il faut bien leur faire un petit clin d'œil.
Allons-y.
D'accord. Alors, Chaudière-Appalaches, pour ceux qui sont un peu moins au courant, je me suis rendu compte que je n'ai pas toujours dit c'était où dans mes chroniques précédentes. Ça se situait où exactement la région dont on parlait sur une carte du Québec.
Oui. Puis,
des fois, les gens sont pas toujours habitués de sortir de chez eux. Et parfois, le cours de géographie est assez loin. Donc, Chaudière-Appalaches, c'est un petit peu au sud du Québec, de la ville de Québec.
De la ville de Québec, oui. C'est donc c'est Lévis?
Oui. Lévis en fait partie.
Oui.
C'est un endroit qui est quand même, encore une fois, je pense, contrairement aux Laurentides de la semaine dernière, peut-être un peu moins connu. Pour ses activités.
Oui, c'est vrai.
Donc, même des fois, tu sais, on pense que on ne sait pas trop c'est quoi Chaudière-Appalaches. Donc là, ici, on vous donne envie d'aller peut-être sur le chemin vers la Gaspésie, ou si vous partez de la Gaspésie puis vous emmenez vers Montréal, bien, ça peut être un arrêt intéressant pour les activités qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, la première, c'est le Musée maritime du Québec à l'Islet.
Oui, à l'Islet, ça, c'est entre Montmagny et Saint-Jean-Port-Joli.
Exactement. Et je vous dirais que mon frère est arrêté avec sa petite famille il y a 2 ans. Ils ont beaucoup aimé.
Puis il est encore là?
Pardon?
Puis il est encore là?
Mon frère, non. Il est arrêté, tout simplement.
Yeah, OK.
Par contre, il a travaillé dans le coin de ma table, mais ça, c'est une autre chose. Donc, au musée comme tel, on va en apprendre un peu plus sur l'espace maritime, donc sur l'historique de la région, les historiques un peu du fleuve, qu'est-ce qui s'est passé comme activité. Ce qui est intéressant pour nous, en fait, qui voulons avoir de l'information sur l'accessibilité des lieux pour les personnes en situation de handicap, mais c'est que c'est un endroit où on a beaucoup d'informations qu'on peut parfois compenser. T'sais, vous savez, on a un vieux sous-marin, mais c'est pas nécessairement évident de le rendre accessible. Mm-hmm. Ben, ils vont avoir pensé à des options de vidéo ou de narration, d'audio guide, etc. Donc, on a des options qui nous permettent, même si parfois on n'a pas accès à tout, à le voir d'une façon différente. Donc, à avoir quand même accès à l'information. On a quand même des endroits comme la salle d'exposition qui a été conçue donc après. C'est pas un vieux vaisseau ou un vieux sous-marin qu'on essaye de visiter. Donc la salle d'exposition comme telle donne plein d'informations et donne de l'information avec audio guide disponible pour les gens qui le désirent. Il y a quand même une panoplie d'activités intéressantes pour toute personne qui est interpellée à comprendre un peu plus ce qui s'est passé sur le fleuve au fil des ans. L'autre chose intéressante, c'est que c'est pas juste à l'intérieur des vaisseaux ou à l'intérieur de la salle d'exposition, mais il y a aussi des activités en plein air. Donc, une exposition à ciel ouvert. Encore là, on a un audio guide disponible pour les personnes qui ne peuvent pas nécessairement lire les panneaux d'interprétation. Fait que c'est quand même intéressant, là. Il y a vraiment pour tous les âges, tous les goûts, ceux qui aiment mieux lire, ceux qui sont plus auditifs. Donc, il y a vraiment une bonne panoplie d'activités intéressantes dans un même site.
Oui, puis c'est très, très beau, hein? C'est près du fleuve, là. C'est vraiment... juste être là, c'est intéressant.
Absolument. Sans même aller voir les expositions, sans même... c'est un lieu vraiment pour... où on peut juste décider d'aller se poser un peu, puis profiter du plein air, puis de... Mm-hmm. Donc, il faut savoir donc qu'en tout, il y a la salle d'exposition, puis trois bateaux musées qu'on peut visiter.
D'accord. Là, on part de là, puis on s'en va un peu plus vers Lévis, mais on tourne vers les terres, on se rend à Saint-Charles-de-Bellechasse, puis là, on va picoler.
Oui, le ricaneux, donc c'est un économisé. Pour votre information, là, si jamais vous êtes interpellé par ce genre de musée, on a sorti un guide sur l'accessibilité dans les économisés du Québec. Donc, l'Association des économisés nous a donné accès là, aux économisés qui voulaient bien faire partie du guide. Donc, c'est des endroits qui sont généralement plus conviviales, entre guillemets, qu'un musée traditionnel. C'est généralement des musées qui sont à la fois éducatifs et intéressants, interactifs. Donc ici, le ricaneux, c'est principalement comment on fait les vins, comment on fait des liqueurs avec des petits fruits. Apparemment, avoir su quand mon frère est passé par là, j'aurais demandé d'en acheter parce qu'apparemment que la liqueur de fraise est particulièrement intéressante. Donc, mon prochain séjour, la crème de framboise, pardon. Mm-hmm. Mon prochain séjour, je vais nécessairement aller voir... aller visiter le musée, mais également aller goûter à ses produits. Donc, ce qu'il faut savoir, par contre, bien que l'ensemble des lieux est accessible, dans la possibilité de se promener dans les sentiers, la possibilité d'avoir des visites guidées, etc., il faut savoir que pour la cave à vin, malheureusement, elle est en bas de marche. Donc, pour personnes à mobilité réduite, c'est un peu plus complexe, mais apparemment, on peut quand même, en étant en haut des marches, bien voir une bonne partie de la cave. Donc, on ne manque pas grand-chose, là, parce que, malheureusement, c'est un site site qui est plus difficile, une partie qui est plus difficile à rendre accessible, mais on a quand même la possibilité là, de voir. Et comme je vous disais, là, il y a toujours des visites commentées qui sont intéressantes et qui nous en apprennent un peu plus que si on se promène par nous-mêmes. Et moi, les dégustations, j'ai rien contre ça. Je dirais même que j'aime bien les courir quand je sais qu'il y en a.
Et une fois qu'on est bien repu, là, on peut s'en aller vers Lévis, à la maison natale de Louis Fréchette, qui était un poète, dramaturge, écrivain et homme politique québécois.
Oui, en fait, moi, je ne connaissais pas Louis Fréchette. J'ai beaucoup aimé aller fouiller un peu plus sur son histoire, mais j'ai aussi beaucoup aimé ce qu'ils ont fait avec la maison natale, c'est-à-dire que, oui, ils ont utilisé la maison natale pour en faire un musée, pour en faire un lieu convivial, mais ce n'est pas qu'une visite, voici, monsieur a vécu ici, voici ses meubles, c'est plutôt une belle salle des salles d'exposition, des activités, des événements. On peut aller écouter des contes. On peut, s'il y a des événements à chaque année là, qui sont rattachés à la poésie, aux contes, etc. Et on peut, il y a même des activités où on peut nous-mêmes devenir plus créatifs et poètes et écrivains, etc. Il y a toujours l'option aussi, quand il n'y a pas de disponibilité, au moment où on est là, s'il n'y a pas de festival ou d'activité particulière, il y a toujours des comptes qui sont disponibles en audio guide. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment, encore une fois, là, assez varié. Mais ce que j'aime, encore une fois, cette fois-ci, dans cette chronique-ci, c'est qu'on va un peu partout, là. On a été dans plus l'exploration autour du fleuve, on a été dans la dégustation, là on est plus dans
l'intellect, peut-être.
Oui, c'est ça. Donc plus dans le réfléchi, dans le. Donc il y a toujours la possibilité si vous avez vous-même un téléphone intelligent ou une tablette ou des tablettes sur place. C'est possible donc d'entendre des contes si ça nous intéresse, ça peut nous inspirer. Mm-hmm. Puis comme c'est un autre site qui est très beau avec la possibilité de se promener dans les sentiers en plein air, ben pourquoi pas aller visiter un peu, aller en apprendre sur la poésie, puis aller s'asseoir sur un petit banc ou dans un espace à l'ombre, puis se mettre à l'écriture.
Tout à fait. Alors, ce sera notre proposition pour Chaudière-Appalaches cette semaine. Vous pouvez aussi vous y référer en allant sur le site de Kéroul ou en allant sur le site de l'émission à Canal M, 5e édition. Un gros merci, Isabelle, et on se reparle la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Alors, c'est une excellente chronique. Merci beaucoup, Yvan, d'avoir préparé ça pour nous. Yvan, qui est en congé aujourd'hui, là, s'il n'est pas malade, vous en faites pas, c'est juste un petit congé. Il avait besoin de faire des choses. Moi, je vais vous proposer de retourner en musique. Je choisis beaucoup, là, ce matin, de chanteurs, chanteuses de la France, parce que c'est la journée de la Bastille, la fête nationale des Français. Puis Dieu sait qu'ils ne l'ont pas eu facile ces derniers temps. Ça fait qu'on pense à eux autres. Et je vous propose donc Gilbert Bécaud. Pour ceux qui sont de ma génération, vous allez savoir c'est qui. Et surtout, moi, c'était un petit hommage aussi parce que c'était le chanteur préféré de maman. Et la chanson que je vous propose, Il y a des moments si merveilleux, ben, c'était sa chanson préférée. Alors, Gilbert Bécaud.
Il y a des moments si merveilleux qu'on voudrait que le temps s'arrête. Que les horloges de sept lieues se taise un peu, se taise un peu. On cherche émerveillé la petite fleur de l'impossible. Sitôt que tu l'as dans la main, elle est fanée le lendemain. Il y a des soit si malheureux qu'on voudrait que le temps éclate. L'on fait semblant d'être deux dans l'illusion d'un coin de bleu. Éteins les mille chandeliers, tu restes seul sous les étoiles. Ton téléphone est sourd-muet, ton petit théâtre est fermé. À renaître soudain, il y a de fabuleux matins. Il y a des moments d'arc-en-ciel où l'univers stoppe sa course. Une simple nuit de Noël te met des larmes à fleur de ciel. Et tu te demandes pourquoi cette nuit-là te démesure. Va, ne cherche pas plus longtemps, l'homme ne reste qu'un enfant. Un enfant. Un enfant.
Et puis le poids a juste augmenté.
Est-ce qu'on mange la cochonnerie? Oui.
Je bouge vraiment pas beaucoup.
Trois couples se prennent en main.
C'est probablement laissé un peu de côté.
Physiquement.
Oh! 28, bang!
Et intimement.
Donc, essayez de retrouver cette bulle.
S'il te plaît. Bon. Ça arrive des fois, on a des bonnes intentions, puis les... Ben, qu'est-ce qu'il disait? Les voix de l'enfer radiophonique sont pavées de bonnes intentions. C'était pas le bon extrait. Ça va arriver, ce genre de truc-là. Je voudrais donc vous parler de lancement, en fait, d'une balado-diffusion qui est produite par le portail VIH-SIDA du Québec, Semer le doute, une balado, eux disent un balado, documentaire sur les théories conspirationnistes en lien avec le VIH-SIDA. Considéré comme l'une des pires épidémies de l'histoire, le sida a causé plus de 36 millions de morts dans le monde. Aujourd'hui, grâce aux avancées scientifiques, il est maintenant possible de vivre avec le VIH et d'être en bonne santé, et l'animateur de cette émission en est un bon exemple. Pourtant, certaines personnes continuent de croire que le VIH-SIDA est le résultat d'un complot impliquant les gouvernements Big Pharma et la communauté scientifique. Je reçois juste ma cicotte. Alors... juste pour vous dire, cette personne est coordonnateur des contenus du portail VIH-SIDA, mais c'est la personne qui, est à peu près, qui fait à peu près tout là, dans cette balado-là. Oui. Bienvenue à l'émission.
Merci beaucoup de me recevoir.
Alors, d'abord, d'où vient, pourquoi on a décidé de faire cette balado?
Oui, bien, d'abord, je veux juste souligner, en fait, pour les gens qui ne connaissent pas le portail VIH-SIDA, oui, ben, oui. Notre mission, c'est vraiment d'offrir du soutien, d'informer le public, les professionnels de la santé, les personnes qui vivent avec une ITSS, notamment par la mise à disposition donc de formations, de matériel multimédia et de conférences.
Donc, une balado comme ça, ça s'inscrit dans
exactement.
La mission de base.
Exactement. Oui, c'est ça. On avait le rôle parfait là, pour pouvoir créer ce projet-là. Donc, pour vraiment comprendre la raison d'être de ce balado, faut se replacer dans la période de la crise sanitaire, de la COVID, donc on s'en souvient. Durant le temps où ça a duré, en fait, le portail a vraiment été confronté à beaucoup de personnes qui commentaient constamment nos publications informatives en disant, par exemple, que ce qu'on disait, c'était des mensonges, en nous parlant de la propagande du VIH. On avait aussi des personnes qui utilisaient nos publications pour solliciter les personnes, en fait, avec des produits naturels qui guériraient le VIH, soi-disant. Il y a aussi eu l'histoire très médiatisée de Bernard Lachance. Donc, en gros, c'est un homme vivant avec le VIH qui est sorti sur la place publique pour dire qu'il avait arrêté ses médicaments contre le VIH en 2017 parce que c'était un virus, en fait, inventé par le gouvernement et Big Pharma pour faire de l'argent en vendant ces pilules-là.
Sans faire trop de promotion de Bernard Lachance, sachez que c'est un chanteur qui avait été jusqu'à Oprah.
Il
a vendu des billets, supposément, pour remplir un auditorium à Chicago. Et donc, il y avait le VIH et qui a parti en campagne, là, c'est ça?
Oui, c'est ça. Puis, donc, d'où nous, on a vu ça aller parce que c'est une personne qui était très charismatique aussi. Puis, quelqu'un qui avait déjà, tu sais, beaucoup de public, là, qui était attentif, en fait, à son discours. Il y a aussi eu un autre élément qui a vraiment joué, c'est qu'on était dans la période creuse du confinement. Hein. Il y avait des mesures sanitaires très coercitives. Donc, on parle du couvre-feu, aussi du passeport vaccinal à un moment. Donc, quand la population est soumise à ce genre de mesures-là qui est plutôt extrême, on peut aussi s'attendre à des réponses qui vont dans les deux extrêmes. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là de polarisation qu'on a décidé en 2022 d'aborder cet enjeu-là parce que c'est très complexe aussi, tu sais, puis on voyait le potentiel nuisible de la montée de ces discours-là. Puis quand il est question de VIH, l'élément le plus important pour nous, c'est qu'il y a des vies en jeu, carrément.
Oui, tout à fait.
Oui, c'est ça. Donc, en commençant le projet, mon but, c'était vraiment de comprendre elles viennent d'où, ces théories-là. Mais aussi, la question qui tue un petit peu, c'est pourquoi il y a des gens qui décident d'y croire au point d'arrêter leur traitement qui est carrément vital là, pour leur longévité.
C'est désolant parce que sachez que Bernard Lachance est mort. Il est mort du sida, quelque chose qui ne se produisait plus, du moins au Canada et en Occident depuis longtemps. Là. Mm-hmm. Parce qu'on a des médicaments pour traiter.
Exactement, oui, exactement. C'est ça, tu sais, le but de ce balado-là, c'était vraiment d'essayer de revenir sur l'origine de ces théories-là, parce qu'elles ont des origines quand même, puis de montrer aussi que les théories conspirationnistes, c'est pas juste des histoires complètement farfelues. En fait, il y a certaines parties de vérité là-dedans. C'est une fenêtre aussi sur la perception que le peuple a du gouvernement, des compagnies pharmaceutiques, donc c'est important d'écouter ce discours-là quand même et pas juste de fermer le dialogue là-dessus.
Oui, du revers de la main.
Exactement.
Je pense que c'est de pas discuter. Oui, des fois ça devient fatigant, là.
C'est sûr.
Mais de pas discuter du tout, ça peut aussi créer d'autres problèmes, oui.
C'est certain. Puis, tu sais, c'est une occasion aussi pour nous de revenir sur l'histoire du sida dans les années 80. Puis d'analyser aussi toutes les discriminations, les oppressions qui ont associé à l'apparition de cette infection-là, parce qu'il y en a eu. Puis c'est un peu ça aussi qui a contribué à la méfiance des gens, puis des communautés marginalisées également.
Donc, si on avait fait à peu près la même chose avec le VIH qu'on a fait avec la COVID, peut-être qu'on n'en serait pas rendu là.
Effectivement, effectivement. Mmh. C'est une leçon du sida aussi. On profite pour rappeler cette leçon du sida qui nous a permis en fait un certain recul là, par rapport à la crise des années 80.
Le temps file. Oui. J'aimerais ça qu'on explique donc que cette balado fait donc l'histoire du VIH puis nous permet de voir un peu comment ça a évolué puis les théories du complot, d'où ça vient. Mm-hmm. Cette balado, elle se présente comment? C'est quoi? C'est quatre épisodes?
Oui, c'est quatre épisodes d'une trentaine de minutes, donc assez rapide. On a des chapitres, donc le premier chapitre, le deuxième, le troisième, le quatrième. Puis c'est sûr qu'on va aborder toutes sortes de sujets. On va en profiter aussi pour parler de la situation actuelle par rapport au VIH.
Oui.
Puis aussi, dans le quatrième chapitre, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on parle de solutions. Donc, comment on peut dialoguer avec des personnes. Puis, tu sais, notre approche là-dedans, c'est vraiment justement d'y aller avec compréhension, avec empathie, mais aussi reconnaître les torts du passé, reconnaître aussi qu'il y a encore des inégalités par rapport au VIH. C'est pas tout le monde qui est égal face à cette infection-là, effectivement. Donc, c'est ça. Puis, de juste rappeler aussi que c'est d'adresser les problèmes qui créent, en fait, les théories conspirationnistes.
Ben, juste, Massicotte, c'est vraiment plaisant de te recevoir aujourd'hui à cette émission.
Beaucoup.
On va certainement, parce que j'anime d'autres émissions à Canal M, qu'on va certainement avoir l'occasion de se rejaser. Rapidement, où est-ce qu'on peut trouver cette série de balado?
Oui, donc le balado est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Vous avez juste à taper Semer le doute, oui. VIH et conspiration, donc Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et tout le reste.
Tout est là. Comme l'autre émission que j'anime, L'heure où l'arc-en-ciel se lève, qu'on peut aller voir et trouver sur toutes les plateformes. C'est vraiment génial, ça, ce genre de situation-là, de pouvoir écouter ce qu'on veut, comme on veut, où on veut. Et puis, ben, bravo pour ce travail.
Merci beaucoup.
Et puis, merci à l'équipe du portail VIH-SIDA d'avoir pris la peine de démystifier cette situation des théories du complot par rapport au VIH. Et après la pause, nous allons parler de l'agence de Midor, l'agence de Drag Queen. Oui, ben c'est un sujet d'actualité, puis on va recevoir donc Crystal Stars.
Au quotidien, 5e édition.
Et c'est Denis Martin Chabot qui remplace aujourd'hui pour l'animation de cette émission. Et on commence cette dernière partie avec une entrevue. Je reçois Crystal Stars. Oui, c'est pas le vrai nom de la personne. Oui, c'est le vrai nom de la personne. C'est en fait une drag queen qui travaille, qui participe à l'émission L'Agence, qu'on peut voir sur Moi ici. Et je trouvais que c'était un sujet intéressant parce que, bon, ben, les drag queens sont vraiment d'actualité ces jours-ci, Crystal. Bonjour.
Allô. Bon matin.
Bon matin, bienvenue à l'émission.
Merci de me recevoir, c'est super gentil.
Ben non, ça nous fait plaisir. Alors, moi, ce que j'ai découvert dans l'émission, j'ai écouté les trois premiers épisodes, et ce que j'ai découvert, c'est que c'est tout nouveau pour toi.
Ben, ça fait 3 ans que je fais ce métier-là, moi, donc mais c'est tout nouveau, c'est vraiment un métier à temps plein pour moi. Donc, c'était le fun de pouvoir vivre ça avec toute une équipe qui me suivait dans mes des premières fois, surtout, mais non, c'est...
L'agence, c'est une émission donc qui est diffusée sur la chaîne Vue et Moi. Ça suit l'agence Midor, qui est une agence de soutien pour les drag queens. Et c'est même intéressant parce que là, on découvre tout le monde et tout ce qui est autour de ce métier, parce que c'est un art, en fait, qu'on devrait dire. Et nous, on découvre que Michel Dorion, qui est donc la personne qui est en charge de Midor, Michel, c'est vraiment, il y a 35 ans d'expérience qu'il dit.
35 ans d'expérience,
ouais.
Michel, oui.
C'est quand même pas rien. Puis qui t'a pris sous son aile.
Oui, bien, dans le langage un peu du monde de la drague, on pourrait dire que c'est ma mère de drague, c'est mon mentor, Michel. Donc, de l'avoir derrière moi, tout 24-7, c'est vraiment une personne ressource pour moi. Donc, de le voir qui me pousse à aller plus loin puis qui veut que j'ai du succès là-dedans, c'est le fun. Puis on le voit dans l'émission, tout au long de la saison, on va le voir. C'est super cool.
Ah oui, parce que, puis quand même, hein, je trouve ça intéressant parce que je suis pas sûr que je serais été à l'aise, moi, personnellement, mais il te critique, hein? Il te critique vraiment dans ta face, devant tout le monde, là.
Ben oui, puis c'est pas juste lui. Souvent, j'en ai parlé dans l'épisode 3, je suis plus jeune de
ah,
l'agence.
Ah oui, puis Butterfly...
Miss Butterfly aime, pas me ramasser, mais elle aime me lancer des petites affaires, tu sais, puis pas des vraies affaires, des objets, là, mais des petits commentaires.
Des
c'est juste, mais ouais. C'est juste pour me pousser à aller plus loin. Puis, tu sais, Michel m'a souvent dit, si je te le disais pas, ça serait te voir t'enfoncer plus loin. Tu sais, je veux que tu t'améliores, je veux que tu ailles plus, que tu sois le meilleur que tu peux être. T'sais. Donc, mais oui, je reçois souvent des petits commentaires de Miss Butterfly. L'épisode 3, on l'a vu. Là.
Oui, oui, donc elle a été un peu dure avec toi. Donc, ça prend une bonne dose d'humilité pour faire une émission comme ça?
Oui, puis au début, j'étais pas certain de ben c'est vraiment c'est pas envahissant, mais un peu de, tu sais, de nous suivre, c'est aussi, on nous suit chez nous aussi, dans, oui, dans nos maisons, avec nos familles. Donc ça, c'était, je pensais que ça allait être difficile, mais un moment après, mettons, je me souviens plus, 4 mois, 5 mois de tournage, les caméras, je les vois plus, là.
Oh my God, autant de tournage que ça.
On a commencé au mois de mars, on a fini fin mai.
Ah ouais, quand même.
Fin mai, début juin, je pense.
Ouais, c'est quand même beaucoup.
C'est
là.
Beaucoup, c'était très demandant, mais je suis tellement fier du produit qu'on a en ce moment. Les gens semblent aimer ça, puis c'est vraiment une façon pour, on dit souvent démocratiser l'art de la drague, mais moi j'aime mieux dire aussi, pas déstigmatiser, mais enlever un peu faire tomber certains stéréotypes, parce que là, c'est un spectacle qu'on fait. Quand le spectacle est fini, on se démaquille, on enlève nos perruques. Moi, je dis souvent que ma partie préférée de la drague, c'est de me démaquiller. Parce que j'ai hâte de retourner chez moi, puis de passer à autre chose, puis de continuer de vivre ma vie ou d'aller me coucher. Mm. Fait que c'est de voir que c'est des êtres humains qui sont derrière ça. C'est pas juste un clown, là. Il y a Guillaume, moi, en arrière de Cristal.
Oui, parce que ton vrai nom, c'est Guillaume.
Guillaume Lamotte, mais pas, je suis pas parent avec Mado Lamotte, par contre. On va mettre ça au clair.
Oui, je ne sais pas, je te dis, il faudrait que je lui demande son vrai nom. Ah non, je ne voulais pas moi le dire, je préférais que tu le que
mais
tu
c'est
te
pas
nommes.
Grave.
J'ai trouvé intéressant aussi qu'on t'a vu faire ton premier spectacle solo dans le deuxième épisode. Et on a vécu avec toi tes angoisses.
Oui, plusieurs angoisses.
Oui, c'était pas facile. Là.
C'est stressant un spectacle solo. Tu sais, Michel l'a dit dans l'épisode que c'est de 2 heures de spectacle. Tout seul, c'est demandant, c'est stressant, mais je suis tellement fier de l'avoir fait, puis je vais le refaire le 30 septembre au Bar Le Cocktail, un tout nouveau spectacle de Céline. Fait que
parce que tu personnifies Céline Dion.
Oui, c'est tout nouveau ça aussi, mais je pense qu'avec Michel qui me coach puis qui me donne des trucs, ça va juste me permettre de m'améliorer à ce niveau-là aussi. Là.
Une des choses que j'ai retenues, ça c'est Butterfly qui le dit, je pense que c'est Butterfly qui dit, si on paye pas, j'y vais pas, parce que... Les gens n'ont pas conscience, hein, avant de devenir Crystal Stars.
Il y a 2 heures de travail, de maquillage, puis des fois ça peut être plus rapide, mais quand même c'est du costume. Le maquillage c'est long, ça coûte cher. Je pense qu'elle dit, si c'est pas payant, je suis pas là.
Ouais.
Puis elle a quand même relativement raison, parce que c'est un métier. Moi puis Butterfly, on est dans le même bateau. Les deux, c'est notre travail.
C'est ton gagne-pain.
C'est ça. Moi, j'habite encore chez mes parents, c'est pas grave, là, mais tu sais, on a des choses à payer quand même en tant qu'adulte, donc il faut que ça soit payant quand même.
Vous êtes des artistes à part entière. L'art de la drague, c'est reconnu. Ça se faisait dans le temps de Shakespeare, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de comédienne, donc c'était des hommes qui faisaient les rôles de femmes. Alors, faut quand
Et
même.
On n'avait pas de problème avec ça dans le temps.
Pas du tout, pas du tout. Donc, il y a des frais à ça. Est-ce que tu penses que tu vas être capable de gagner ta vie avec ça un jour ou l'autre?
Moi, dans la vie, j'étudie en mode, design de mode. Donc, c'est sûr que moi, j'ai ça qui me. J'aimerais ça d'aller travailler là-dedans, mais je me vois pas arrêter de faire ça. J'aimerais ça avoir un jour un spectacle 35 ans de carrière comme Michel. C'est ce qui m'inspire le plus. C'est une des personnes qui m'inspire le plus dans la vie. Puis c'est pour ça que j'aime autant l'avoir comme, pas juste comme agent. C'est mon gérant, mais c'est aussi un ami. C'est une figure parentale par moment. C'est vraiment, c'est une de mes plus grandes inspirations. Fait que j'aimerais ça devenir un peu comme lui.
Ce que j'ai beaucoup apprécié de cette émission, puis ça, je vais probablement le dire aussi à Michel, j'ai beaucoup aimé la bienveillance tout le tour. Même quand, parce que Butterfly, on va le dire, elle a été bitch un peu, là. Alors, je connais bien Butterfly, je l'aime beaucoup, là.
Oui.
Mais j'ai trouvé que c'était fait avec humour et bienveillance.
Oui, puis il y a de l'amour là-dedans. Tu sais, j'étais en spectacle avec Miss Butterfly hier soir, justement, puis on en parlait. Tu sais, les gens qui nous écrivaient, mon Dieu, est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous haïssez? Ben, c'est le fun, c'est de la télévision, mais au final, il n'y a pas vraiment d'animosité entre Miss Butterfly et moi. Là. Je tiens juste à le dire. Là.
Ben oui. Ben, on termine en disant, donc, l'émission s'appelle L'Agence.
Oui.
C'est sur Moi et compagnie.
Moi et compagnie, tous les lundis, 21h.
Et on peut le prendre en rattrapage, comme moi, je l'ai fait.
Ouais, puis les 3 premiers épisodes sont disponibles gratuitement sur TVA+, mais le reste de la saison, il va falloir s'abonner à la chaîne Moi et compagnie, comme c'est sur une chaîne par abonnement.
Mm-hmm.
Mais je pense que ça vaut la peine.
Ben, merci beaucoup, Guillaume Lamotte, connu comme Crystal Stars.
Merci
beaucoup d'être venu à l'émission.
Ça fait plaisir.
Et nous, on va aller en musique.
Aux Champs-Élysées, aux balader sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées.
C'était une reprise des Champs-Élysées par Pamplemousse et John Schrader.
Oh, oui, oui, hein? C'est une belle reprise de la chanson de Joe Dassin. J'avais l'impression que j'étais à Paris, moi, Nicolas.
Hein, ça
fait... Oui, oui. Ça fait du bien, hein? Ben, écoute, on va aller des Champs-Élysées pour parler de... En fait, pour parler avec Vanessa Anne Paré, qui est organisatrice communautaire. On va parler donc des sujets à venir en début de semaine, le Festival international de cinéma adapté de Montréal. Wow, deuxième édition. Ben, bonjour Vanessa.
Bonjour, ça va bien?
Très bien, vous-même.
Oui, ça va bien. J'étais rendue à Paris aussi, mais là, il a fallu que je me ramène.
Oui, ben j'ai eu ce problème-là. Moi, pas pour me vanter, mais j'y étais jusqu'à dimanche. Et puis,
oh!
Ouais. Mais il faut dire que je disais aux gens en début d'émission que c'était le fun, mais j'ai aussi vécu les émeutes là-bas. J'avais un appartement à Bobigny.
Ouais.
Et on n'était pas très loin des émeutes. Et puis, il y a eu des autobus qui ont passé au feu. Mais cela dit, là, c'est géré. Et puis... on peut encore célébrer aujourd'hui, mais nous, on ne va pas parler de Paris. On parle d'autre chose aujourd'hui.
Exactement, oui. On va parler du Festival international de cinéma adapté de Montréal,
oui.
Qui, je dois dire, n'est pas une initiative de Moelle Épinière et Motricité Québec. Donc, nous, on est, dans le fond, l'instigateur du projet, c'est Miguel Sorteau, qui est cinéaste, vidéaste, un homme aux mille métiers. Et lui nous a approché l'an dernier, ainsi que plusieurs autres organismes communautaires pour monter ce projet-là, dans le fond, qui est un festival qui met en vedette soit des créateurs, des réalisateurs ou encore des acteurs-actrices en situation de handicap. Donc, cette année, on va se joindre à ces activités-là là, pour une deuxième année consécutive, puis on a bien hâte.
Je suis un petit peu curieux parce que le cinéma adapté, on l'adapte de quel... On parle de mobilité réduite, donc c'est quoi? C'est des salles? Comment est-ce qu'on fait ça?
Je dirais que le terme adapté peut peut-être porter à confusion. On aurait pu dire cinéma intégré ou cinéma inclusif.
Oui.
Donc, oui, il y a cette préoccupation-là que les espaces où vont se dérouler les projections soient accessibles, pas seulement en termes de mobilité réduite, mais en termes d'expérience globale là, pour quelle que soit la limitation fonctionnelle. Mm-hmm. Puis, il y a aussi cette mise en valeur-là des créateurs et acteurs et actrices qui sont en situation de handicap.
Ah, ça, c'est intéressant aussi, parce qu'on voit de plus en plus hein, d'acteurs, actrices en situation de handicap. Du moins, on en voit beaucoup à la télé depuis un bout de temps. C'est quand même intéressant. Ça donne une toute autre vision de ce que c'est que d'être en situation de handicap.
Oui, puis c'est de plus en plus aussi, je ne sais pas si vous remarquez la même chose, c'est pas toujours dans un rôle de faire valoir pour « Ah, t'es donc bien inspirant » ou les personnages sont plus nécessairement cantonnés dans ces rôles-là, donc on voit toute la palette de l'être humain, là, finalement, des gens qui vivent toutes sortes de situations de la vie de tous les jours, en plus de vivre avec un handicap, donc c'est... Il y a une meilleure représentativité, je trouve, aussi dans le cinéma ou les médias plus grand public, disons.
Oui, je ne vais pas trop gruger de ce temps d'entrevue, mais je ne peux que penser à cette série qui s'appelle Spécial sur Netflix.
Et c'est
moi, ça m'a tellement parlé, cette série-là. Et on découvre vraiment une vraie personne en situation d'handicap qui a vécu donc ce qu'on appelle la paralysie cérébrale et qui vit dans un monde qui... là, on se rend compte que le monde n'est pas fait pour ces gens-là, mais c'est pas croyable.
C'est vrai, c'est ça, qui se heurte à des obstacles en même temps qu'il y a sa vie, ses aspirations, ses désirs, sa sexualité à apprivoiser.
Oui.
Donc, il y a vraiment... je ne sais pas, par contre, le type d'œuvre, s'il y aura du cinéma ou des courts-métrages américains, mais je pense l'an dernier, il y avait vraiment une sélection qui provenait de différents pays. Donc, je peux peut-être y aller parce que je pense que l'entrevue tire à sa fin avec les dates, dans le fond.
Oui, on a encore du temps. On a encore du temps pour nous. Ah oui, on a encore un bon 4-5 minutes. Là. On y va. On a le temps d'en parler.
Ah oui. Ça, c'est l'information cruciale là, si on veut que les gens puissent s'y rendre. Effectivement. Donc, cette année, je ne sais pas exactement de quoi sera composée la programmation, mais l'an dernier, c'était une soirée de représentation à la Maison de la culture du Plateau.
Oui.
Cette année, il y en aura quatre, donc c'est ça qui est super intéressant. La première va être le jeudi 17 août, puis ce sera une projection sous les étoiles, donc au parc Raymond Préfontaine, dans Schlaga Maisonneuve. Donc, on va se souhaiter du beau temps. Sinon, ça va être mis au 19 août en cas de pluie. Puis, il va y avoir trois dates en octobre de projection en salle dans différents lieux. Il me semble qu'il y a deux maisons de la culture là, parmi les lieux, mais la programmation n'est pas complètement établie.
Ce qui est intéressant, je pense que le parc Raymond Lafontaine n'est pas loin de la station de métro qui finalement a des ascenseurs.
Oui, c'est pensé d'ailleurs. C'est ça, la station Préfontaine sur la ligne verte.
Oui. Ben, on commence à avoir de plus en plus d'accessibilité. Et puis moi, je le dis toujours aux gens, c'est parce que si les gens ne peuvent pas participer, c'est plate parce qu'on se prive probablement de la part de gens très intéressants qui ont plein de choses à contribuer, puis souvent parce qu'ils n'ont pas accès, bien, ils ne participent pas. Alors, c'est vraiment intéressant de voir que ces choses-là se font, là.
On a vraiment à gagner comme société. Autant les personnes qui rencontrent ces obstacles-là pour leur permettre de participer, mais c'est ça, comme vous dites, la société au grand complet a quelque chose à gagner.
Oui. Alors, moi, Lépinière et Mobilité Québec, donc, vous avez d'autres activités qui se préparent dans les prochaines semaines?
Oui, en fait, on va, à la fin de la semaine prochaine, nos bureaux seront fermés pour les vacances de la construction. Donc, ça risque d'être un petit peu tranquille de ce côté-là, mais par la suite, on a différentes activités un peu partout au Québec. Je crois que il va y avoir demain, il y a quelque chose à Victoriaville, une randonnée de vélo à main qui va se faire. La suivante, au mois d'août, à Trois-Rivières, qui va être suivie d'un souper partage pour nos membres de cette région-là. Il va y avoir une activité de pétanque à Sainte-Marie-de-Beauce. C'est nos collègues qui sont dans l'Est du Québec qui vont organiser ça. Mon Dieu, de mémoire comme ça. Puis à partir de fin août, début septembre, on va recommencer vraiment avec notre programmation habituelle, là, un petit peu plus d'activités. Puis j'aurai sans doute l'occasion d'en reparler à notre prochain rendez-vous.
Certainement. Mais en tout cas, moi, je trouve ça super intéressant de savoir qu'il y a des activités qui intègrent tout le monde. Puis je vous entendais te parler de vélo à main. Moi, j'ai vu ça, là, puis je serais bien malheureux d'essayer de faire du vélo à main.
Puis...
Puis là, je me dis, finalement, là, c'est peut-être moi la personne qui est en situation de handicap par rapport à cette personne-là.
Probablement, pour suivre le groupe, il roule à peu près à 35-40 km/h. Il y en a pour tout le monde.
Oui, on oublie ça, 30-40. Oui, non, surtout pas comme ça. Et la pétanque, oublie ça, je suis nul là-dedans.
La pétanque, ça prend du visu, c'est beaucoup de stratégie. Puis on peut l'adapter aussi avec des rampes. Mais c'est vraiment, ça se passe beaucoup dans la tête, là, disons, comment placer, comment lancer, etc.
Merci. En tout cas, c'est super le fun. Merci beaucoup. Puis on va encourager les gens donc à suivre ce festival de cinéma adapté, qu'on pourrait peut-être dire inclusif, à Montréal là, dans les prochaines semaines.
Plaisir partagé. Merci beaucoup.
À la prochaine. Et puis moi, j'en profite pour vous parler d'une actualité qui a retenu mon attention aujourd'hui. Eh bien, en prévision des prochaines élections provinciales, les organismes Abilities Manitoba et Barrier Free Manitoba lancent une campagne de sensibilisation sur l'inclusion des personnes en situation d'handicap au processus démocratique. La campagne Disability Matters Vote vise à assurer que tout électeur puisse avoir accès au vote. D'après Rosalie Best, qui est consultante spécialisée en accessibilité pour le cabinet de conseil Left Turn Right Turn, il y a plusieurs endroits où l'on peut voter qui ne sont pas complètement accessibles pour ceux qui ont du mal à lire. Donc, que le processus de vote est un peu plus compliqué pour ces personnes-là. On sait qu'une personne sur cinq au Manitoba est atteinte d'un handicap, explique Rosalie Best. Il importe donc de repenser et simplifier le processus de scrutin, insiste-t-elle. De surcroît, certains groupes de personnes, dont celles qui sont en situation de handicap cognitif, sont particulièrement affectées. Et puis, l'accès en général est une priorité pour les personnes en situation de handicap, selon elle. Il y a beaucoup de séparation de groupes. On aimerait avoir un peu plus d'inclusion des personnes. D'après elle, une assistance à la compréhension du processus de scrutin ou à ses dimensions physiques, comme aider à remplir un bulletin de vote, par exemple, contribuerait à rendre le processus plus exclusif. Ouais, hein, c'est chose à penser. Alors, sur ça, un petit pont musical, puis on y va.
J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherché sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé.
Aline, Christophe.
Christophe, qui a repris une chanson de Salvatore Adamo. C'est pas un artiste français, c'est un artiste italo-belge. Parce que beaucoup de personnes disent toujours « Ah, oh, c'est un grand chanteur français », mais c'est sûr que quand on fait carrière dans la francophonie, on finit toujours par être associé à la France, mais c'est un chanteur donc italo-belge. Mais un peu comme on pense aussi que Jacques Brel est un chanteur français, il ne l'est pas, c'est un chanteur belge, c'était un chanteur belge parce que lui, il n'est plus de ce monde. Voilà. Et puis donc, Aline, moi je me rappelais ma sœur qui pleurait lorsqu'elle entendait. Là, j'espère que je ne me trompe pas, c'est bel et bien Aline de Salvatore Adamo. Des fois, je me remets en question parce que quand on prend de l'âge, des fois on se trompe un peu d'une année à l'autre ou d'un chanteur à l'autre. Mais voilà. Juste avant de vous quitter, il y a une flambée de tuberculose au Nunavik. C'est quand même inquiétant. Et donc, depuis le début de l'année, 59 cas de tuberculose ont été détectés dans au moins 5 villages de la région. Si la tendance se maintient, 2023 marquera donc un nouveau record récent pour la propagation de cette maladie. Juste pour vous dire, en 2020, donc 2023, c'est 59 cas jusqu'à maintenant. Le dernier record, j'aime pas ce genre de choses-là, des records, mais c'était 2019 avec 67 cas. Ben, il me reste pas beaucoup de temps pour vous dire un gros merci d'avoir été avec nous. C'est toujours un privilège d'avoir accès, d'avoir un micro. Je dis ça souvent aux gens. On m'a offert donc de remplacer aujourd'hui l'équipe qui est là habituellement. Et c'est toujours un privilège d'avoir cette opportunité de vous parler, de partager avec vous des choses intéressantes, des choses qui me tiennent à cœur, et de discuter aussi avec nos invités qui viennent ici en studio ou qu'on reçoit au téléphone, nos chroniqueurs, nos chroniqueuses. Alors, c'est toujours un privilège, je l'apprécie à chaque fois. Puis c'est pour ça que je veux toujours remercier les gens d'avoir pris la peine, le temps, l'effort de nous écouter. CanalM est une radio qui vise l'inclusion de tous. Et donc, pour moi, ça inclut aussi les personnes en situation d'handicap, oui, les personnes en situation d'handicap physique, mentale, peu importe, et aussi les personnes qui vivent des difficultés dans leur vie de par leur origine, de par leur identité, de par leur orientation sexuelle. Alors nous, on est vraiment une radio où on veut donner une voix, et pas juste donner une voix, de prendre la peine d'entendre et d'écouter les gens. Je vous rappelle donc que la météo pour les prochains jours, ça va quand même se gâter dans la région de Québec. Il annonce encore de la pluie ce week-end. Alors, pour les pauvres festivaliers du festival d'été, ça risque d'être un peu compliqué. Alors, si les spectacles ont lieu, amenez un bon poncho, des bottes de caoutchouc. Et puis, ben voilà. Puis Nicolas, toi, ce week-end, des projets?
J'étais supposé d'aller faire du camping, mais ça va peut-être être mis sur pause.
Oui, ça va être un peu mouillé comme camping, puis je pense qu'il va pleuvoir pas mal ce week-end.
Oh oui.
Ouais, fait qu'on va être sage. Alors, je voudrais justement remercier l'équipe qui a travaillé avec nous cette semaine. En régie, donc, Mathieu Zwartman. Et je prononce bien ton nom, hein, oui.
Nicolas Zwartman.
J'ai dit Mathieu, Nicolas. Nicolas Zwartman. Yvan et Francine, donc, qu'on remercie, qui ont fait beaucoup à la recherche aujourd'hui. Et puis, à la coordination du contenu, c'est la très charmante Gerlie Hormelette qu'on aime beaucoup. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir passé cette heure et demie en notre compagnie. Et puis, moi, de mon côté, je vous souhaite de passer un très, très beau week-end. Prenez le temps de, même s'il fait pas beau, prenez le temps de vous aimer, et puis un bon petit café avec des amis. On en profite. Il va pas faire si beau que ça, mais on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Bon week-end tout le monde!